c'est cool de prêcher assise. Bonjour à tous et à toutes. Je vais, pour commencer ce message, vous parler d'abord un peu de mon témoignage, mais je voudrais d'abord prier. Seigneur, je te soumets maintenant tout ce que je vais dire, je te soumets ma vie, je te soumets ma bouche, que ton Saint-Esprit vraiment se saisisse de moi. Et merci pour ce que tu as mis dans ma vie, ce que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, et je te prie vraiment que ce soit ta parole qui passe, ce que toi tu as prévu pour nous ce matin, non pas ce que moi j'ai préparé ou ce que moi j'ai prévu, mais vraiment ce que toi tu as prévu pour nous ce matin. Que ton nom soit béni. Amen. Alors, c'est vrai que quand Vincent est rentré d'Hawaï et qu'il nous avait partagé la guérison de son amie, et puis qu'elle lui avait offert un petit fromage, moi je lui ai dit, si tu veux, moi je t'offre vraiment, mais le minster, quoi. Il me dit, j'aime pas le minster. Je dis, bon alors, la roue de gruyère, si tu veux. Et il s'est engagé à prier pour moi. Et vraiment, je veux remercier l'Église pour cette chaîne de prière, pour tous ceux qui ont déjà et qui prient pour moi depuis plus longtemps que ça. Je veux remercier vraiment pour chacune des prières qui montent devant l'Éternel pour moi. C'est vraiment une grâce, une bénédiction. C'est vraiment, je crois que si je tiens, c'est aussi à cause de toutes ces prières, parce que c'est le bras puissant de Dieu qui me soutient, qui me permet de continuer d'avancer malgré. Donc vraiment, merci à chacun, merci à chacune. Début février, Vincent un jour vient me voir et il me dit « Écoute, j'ai à cœur de venir une heure avant le culte et de prier pour toi. Toi, tu peux prier pour le culte, tu peux prier pour tout ce que tu voudras, mais moi, je ne serai là que pour prier pour toi. » Et c'est ce qu'il a fait, vraiment, il s'est engagé, il a honoré. Et pendant qu'il priait, j'ai eu deux visions. La première, j'ai vu un cobra qui avait planté ses crocs dans mon côté droit, au niveau des lombaires, un peu plus haut que les lombaires. Et la deuxième chose que j'ai vu mon côté gauche, donc le côté où la hanche elle est cassée. J'ai vu mon côté gauche complètement atrophié et c'est comme si, quelque part, ma maman, elle s'était incarnée dans ce côté gauche. Alors, le cobra, j'avais aucun problème pour discerner ce que c'était. Pour moi, un serpent, c'est de la sorcellerie qui est dirigée pas seulement contre moi, mais contre l'Église. Comme je me tiens en tant qu'intercesseur et que je suis responsable de l'intercession au niveau de l'Église, je sais que je suis une des cibles privilégiées quelque part de l'ennemi, mais lui aussi, il est ma cible privilégiée. Donc, comme ça, on est quitte. Et donc, par rapport à ça, je n'avais absolument aucun problème, aucun mal. Mais par rapport à ce que je voyais, ma maman s'incarner dans mon côté gauche, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Donc la vision du cobra, je l'ai partagée à Vincent, mais le reste, je l'ai gardé pour moi, ne sachant pas comment expliquer la chose. Et tout le monde sait que le 19 février, enfin pour ceux qui étaient là, on a eu la visite de Rémi Bale, qui a pris vraiment un long temps pour prier pour moi. Je reviendrai sur l'histoire du côté gauche, hein, ne vous inquiétez pas. Et c'est vrai que Luc Emmanuela ne lui avait rien dit à l'époque de ma situation. Il voulait vraiment que ce qu'ils reçoivent vienne du Saint-Esprit et non pas parce qu'ils avaient entendu parler de moi. Et spontanément, à un moment donné, il est venu vers moi, il m'a fait lever. Et ce qui pour moi déjà était en soi un miracle, c'est que je me suis levée sans ma canne, alors que ça faisait des semaines que je ne pouvais plus marcher sans ma canne, faire à manger, ça devenait presque un domaine impossible, parce qu'il fallait que je m'appuie de toutes mes forces sur le plan de travail, je ne pouvais plus me tenir ni sur ma jambe droite, ni sur ma jambe gauche. Et donc rien que le fait que je puisse me lever à ce moment-là, pour moi, c'était déjà quelque part un miracle. Et c'est vrai que j'ai pas uniquement des problèmes au niveau de ma hanche gauche, j'ai des problèmes au niveau des lombaires, mais qui sont antérieurs aux problèmes de la hanche gauche. J'ai commencé à souffrir du dos à l'âge de 18 ans. Donc Rémi vient vers moi, il commence à prier et j'ai pu ressentir à ce moment-là aussi mais la foi de l'assemblée et le cœur de chacun, ce cœur qui n'avait qu'un désir, mais c'est de me voir guéri, de me voir danser, de me voir sauter. Vraiment, je l'ai senti, il y a quelque chose de fort qui est passé à ce moment-là, mais rien ne s'est passé. J'ai continué à régulièrement, pendant qu'il priait, il m'a demandé « Est-ce que tu te sens mieux ?» Eh bien non, je ne pouvais pas dire oui parce que je ne veux pas mentir non plus. La réalité était que rien ne s'est passé à ce moment-là. Donc je suis allée me rasseoir tout en gardant « Seigneur, moi je crois ». Et c'est vrai que plusieurs prophètes m'ont dit que ce que je vivais dans mon corps, c'est ce que l'Église de France vit dans son corps. Et quand j'étais au Mexique l'année dernière, un couple qui ne me connaît pas du tout a prophétisé sur moi et m'a dit « Le jour où tu jetteras ta canne, l'Église de France sera guérie ». Ils ne savaient rien de ma situation, ils ne savent peut-être même rien de la situation de l'Église de France, mais voilà les paroles qui m'ont été données. Donc voilà, je me suis donc rassise et puis je regarde vers la batterie qui était encore de ce côté-ci à ce moment-là et je vois Timothée, mon neveu, qui était en larmes. Je me dis, j'ai détourné le regard pour pas pleurer parce que moi, quand je vois quelqu'un pleurer, je pleure avec. Mais Timothée s'est levé et il est venu vers moi et il m'a dit, Tata, j'ai une parole pour toi. Il me dit, tu es une princesse et une princesse ne va pas vers son roi en boitant. Et ce que je n'ai pas compris à ce moment-là, c'est qu'il prophétisait sur l'Église de France. Et il m'a dit, viens, lève-toi et marche, je vais te soutenir. Et pour ceux qui étaient là, c'est vrai que j'ai fait des allées et venues. Ils ont de grandes enjambées. Vincent est venu me soutenir de l'autre côté. Je crois que tout le monde était ému, moi la première. Et j'en suis restée là, si vous voulez, avec tout ça. Mais arrivée à la maison, j'ai continué vraiment à proclamer la victoire dans mes os, dans ma hanche, dans mon dos, et la recréation vraiment du cartilage qui me manque autant dans la hanche que dans mes vertèbres. Et puis, j'ai une amie qui est venue me voir parce qu'elle avait besoin de prière, quelqu'un qui n'est pas de Josué. Et j'avais demandé à Anne et à Alana, c'était pendant les vacances scolaires, donc j'avais demandé à Anne et à Alana de venir prier avec moi pour elle. Et chose bizarre, je n'ai pas l'habitude de partager mes propres fardeaux, mes propres problèmes quand on prie pour quelqu'un d'autre. Et spontanément, elles sont arrivées et je leur ai partagé les deux visions que j'avais eues, celle du cobra et celle de ma maman qui s'était incarnée dans mon côté gauche alors qu'on avait coupé les liens d'hérédité, on avait brisé toutes ces choses. Et puis pour moi, vraiment tout ce qu'on pouvait faire humainement et dans la prière et dans l'intercession avait été fait. Mais et j'ai compris à ce moment-là, en fait, que si Dieu me montrait ma maman, c'est parce que ma maman, elle était infirme. Et si sa colonne vertébrale avait été dépliée, elle aurait mesuré 15 à 20 centimètres de plus que ce qu'elle n'avait. Et c'était simplement pour me montrer, parce que maman, c'était quelqu'un, c'était une référence, c'est quelqu'un que je connaissais, donc je pouvais m'appuyer sur quelque chose que je connaissais. Et c'était simplement pour me montrer, mais voilà, mon église, elle est infirme. Et en priant pour mon amie, Anne, elle a vraiment eu la révélation que ouais, par rapport à ce côté gauche, que c'est vraiment le côté féminin de l'église qui est atrophié. L'église, elle a deux jambes. La jambe masculine et la jambe féminine. Je vous lirai un extrait d'un livre tout à l'heure. Et en fait, l'Église, elle boite parce que le côté féminin de Dieu n'est pas reconnu. Nous, on a cette chance ici à Josué, et je suis reconnaissante à Luc et à Manuela, de nous permettre, à nous les femmes, de nous lever, d'enseigner, d'entrer dans notre destinée, d'entrer dans l'appel que Dieu a prévu pour nous. C'est vraiment un cadeau de les avoir, c'est un cadeau de les voir fonctionner ensemble aussi. C'est vraiment une grâce particulière. Et Anne, elle a eu à ce moment-là ce passage de Genèse 3 au verset 15 où il est dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et cet autre verset dans Romains 16, 20 « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Et en fait, cette femme dont il est parlé dans Genèse 3 au verset 15, cette femme, c'est l'Église. C'est l'Église des nations, mais c'est l'Église de France aussi. Et tant que l'Église ne sera pas complète, elle ne pourra pas écraser la tête du serpent. Tant qu'il n'y a qu'une jambe qui va marcher, moi, je peux vous dire, je peux me lever, vous mettez devant moi un escargot, à la limite, je peux l'écraser. Un serpent, non. Parce que je ne peux pas me tenir sans ma canne sur ma jambe gauche et je n'ai aucune puissance dans ma jambe droite. Si je ne peux pas me tenir dans ma jambe gauche pour écraser un serpent ou pour écraser un scorpion, encore moins la tête, toute la tête de l'ennemi. Donc il y a vraiment besoin à ce que Dieu veut restaurer, mais il y a vraiment besoin à ce qu'on accueille ce que Dieu veut faire dans l'Église aujourd'hui. Et au bout d'un moment, Anne et Alana ont prié pour moi, elles n'avaient pas la paix. Moi, je leur avais partagé mon problème simplement pour qu'elles prient, que Dieu donne la révélation de ce que je voyais, de ce que j'avais reçu, et que 8 jours après ou 15 jours après, eh bien, on puisse prendre un temps ensemble, prier ensemble par rapport à ça. Mais elles n'avaient pas la paix de me laisser repartir de là, dans l'état où j'étais. Et donc, elles ont prié pour moi. Et il faut dire aussi que dans mon côté droit, là où les crocs de l'ennemi avaient été plantés, eh bien, j'avais une brûlure. Elles ont prié pour moi, elles ont arraché ce serpent, elles l'ont piétiné instantanément, la brûlure, elle a cessé, et depuis, je n'ai plus rien. J'ai les douleurs des lombaires, mais la brûlure n'est plus là. Donc, il y a vraiment cette puissance aussi dans la prière, dans l'intercession. Et quand Dieu montre quelque chose, eh bien, je crois qu'il ne faut pas rester là avec nos bobos, mais il faut aussi avoir ce courage et des fois cette humilité de partager les choses. Je crois que c'est important. Et pendant qu'elle priait pour moi, en fait, ce que j'ai vu, c'est que Dieu m'a fait penser à la dernière guerre, à la dernière guerre mondiale. Et c'était pour moi bizarre que Dieu me fasse penser à ça, à ce moment-là. Mais Dieu m'a rappelé, les hommes sont partis au combat, ils se sont battus. Et quand ils sont rentrés de la guerre, quand on a gagné la guerre, ils ont eu tous les honneurs. Mais les femmes, elles sont restées à la maison, elles ont travaillé au champ, elles ont travaillé pour fabriquer les munitions pour les hommes, elles ont éduqué les enfants, elles ont maintenu l'économie du pays. Et les femmes, quoi ? Rien, zéro. Alors que dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel 30 au verset 24, il est dit que la part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages, et ensemble ils partageront le butin. Et qu'est-ce qui est ressorti de là ? C'est que quelques années plus tard, il y a eu le MLF, le mouvement de libération de la femme qui s'est levée en France. Et on sait tous que ça, c'est une malédiction pour notre nation. Parce que qu'est-ce qui est sorti de là ? C'est la loi sur l'avortement. C'est « je peux faire de mon corps en tant que femme ce que je veux ». Voilà les choses qui sortent, et puis d'autres. Hein. Et les femmes qui écrasent les hommes, et puis les femmes qui veulent le pouvoir à la place des hommes, c'est pas ce que Dieu a prévu. Donc voilà, l'après-midi, mon ami et moi, on a pris un temps de repos parce qu'après une matinée entière à prier, on était un peu HS. Et Dieu a continué de me parler. Et Dieu m'a rappelé justement ce que Timothée m'avait dit. Tu es une princesse, lève-toi et marche et va vers ton roi, quoi. Et Saint-Esprit m'a parlé et il m'a dit, c'est cette jeune génération qui va permettre à ce que l'Église se tienne debout sur ses deux jambes. Moi, j'étais, et je le suis encore, ils sont précieux. Notre jeunesse, c'est un trésor, c'est notre trésor. C'est vraiment ce que Dieu nous a donné de plus précieux. Et j'en étais bouleversée. Et le dimanche d'après, c'est Anne qui a prêché, alors ne me demandez plus ce qu'elle a prêché, parce que ça, je ne vais pas dire que je l'ai oublié, mais ce n'est pas le propos. Mais à la fin de la prêche, elle avait demandé à ce qu'on puisse reprendre un temps de louange. Et David est venu, on a repris un temps de louange, et le Saint-Esprit est venu et m'a visité. Et là, Dieu m'a dit, mais mon vrai visage, c'est pas les représentations que vous avez de moi. Et c'est vrai que quand on prend tous les grands peintres qui ont peint la Trinité, on voit Dieu le Père comme un vieillard barbu, une barbe jusque-là, vieux comme pas possible. Moi, j'en ai vu une représentation à Guebwiller, au musée de Guebwiller, mais c'est l'horreur la plus complète. Mais le vrai visage de Dieu, ça n'est pas ça. Le vrai visage de Dieu, c'est un homme et femme. Il a cette féminité, cette masculinité en lui. Il est les deux. Et quand il a créé l'homme à son image, dans Genèse 1 au verset 27, il est dit, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et soudain, en Genèse 2, alors que l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc quand Dieu a créé Adam, au début, il avait cette double nature, masculine et féminine. Il était homme et femme en même temps. Et quand Dieu le fit tomber dans un profond sommeil, il ne lui a pas pris une côte. Il a pris tout le côté féminin qui était en Adam pour en faire Ève et pour la placer à côté de lui, pour être son vis-à-vis, pour être son égal, pour être sur le même plan d'égalité qu'Adam. Et je crois que Dieu, ce qu'il veut actuellement, c'est vraiment restaurer pleinement son image, l'image de qui il est dans l'Église de France. Ce côté masculin et ce côté féminin. L'un ne va pas sans l'autre. L'homme, quelque part, a été créé pour établir, pour fonder, mais la femme, elle a été créée pour donner la vie. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Une autre chose que Dieu m'a fait découvrir, c'est que ce visage, ce double visage, cette masculinité, cette féminité, mais on l'a dans chaque foyer. On a un papa, on a une maman. Et quand les enfants regardent papa et maman, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient l'image même du Père, l'image même de Dieu qui est ce Dieu créateur. Et quand on parle de Dieu en tant qu'El Shaddai, le puissant nourricier qui est utilisé 48 fois dans la Bible, eh bien El Shaddai, ça veut dire poitrine, sein nourricier, qui allaite, le sein qui allaite. Et c'est vrai qu'on a, même dans la parole de Dieu, on a souvent vu Dieu comme le Père, mais on a oublié ce Shaddai qui est cité 48 fois, je vous l'ai dit, dans la parole de Dieu. Hein. Et c'est vrai que Dieu a été doté d'une identité masculine à cause de Dieu le Père, mais il est El Shaddai. Le puissant nourricier, celui qui a des mamelles, celui qui nourrit. Et quand on parle dans Apocalypse 1, 13, quand Jean a vu Jésus, quelqu'un qui ressemblait en fait à un fils de l'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, ce terme de poitrine, encore une fois, c'est vraiment ce shad, celui qui nourrit, la mamelle qui allaite, celui qui donne à manger. Et quand Dieu créa l'homme, on va faire un peu d'hébreu, mais je ne suis pas un professeur d'hébreu, hein, vous inquiétez pas, je ne vais pas trop vous prendre la tête. Quand Dieu créa l'homme, il créa Ish. Et ce mot est composé de trois lettres, le Aleph, le Yod et le Shin. Son vis-à-vis, Ève, c'est Isha, est composé de trois lettres, le Aleph, le Shin et le He. Et donc, on a deux lettres identiques dans Ish et Isha, c'est le Aleph et le Shin. Et si nous mettons ces deux lettres ensemble, nous avons un mot nouveau qui se lit Esh, qui signifie feu. Et Dieu s'est souvent révélé par le feu. lorsqu'il est, on pense au buisson ardent ou au feu qui est descendu sur l'autel d'Élie face au prophète de Baal. Il y a plein de références où on trouve vraiment l'Éternel qui est représenté par le feu. Donc lorsqu'Ish et Isha s'unissent, les deux lettres qui restent s'unissent entre elles. Le yod de l'homme et le hé de la femme qui se lisent Yah. Et c'est là où ça devient intéressant. En fait, le yod, c'est la main fermée de Dieu qui s'ouvre pour créer l'homme à son image. Et le hé, c'est le souffle de l'esprit qui donne la vie. Mais le hé et le yod se lisent Yah, qui est une déclinaison du nom de Dieu, les deux premières lettres du tétragramme. C'est impressionnant. Moi, ça m'a... Waouh ! Je dis, c'est extraordinaire, quoi. Donc, l'un des noms de Dieu est donc partie intégrante de l'homme et de la femme, et du couple. C'est tellement énorme. Alors, comme je le disais plus haut, Dieu a donné à l'homme la capacité d'organisation, d'administration, de définir les choses. Nous voyons ça dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu fait passer tous les animaux devant Adam et puis que Adam donne un nom à chacun des animaux. Mais Dieu a donné à la femme qui venait de sortir du côté d'Adam. Adam lui-même a vu qu'elle avait la puissance de concevoir. C'est pour ça qu'il l'a appelée Ève. Et Ève veut dire vie ou vivant. Donc la femme a la capacité de concevoir la vie et à la délivrer par la naissance. C'est un aspect de la nature divine, tout comme la capacité de l'homme à ordonner, à donner une définition, une structure à ce qui n'en avait pas, est une faculté divine de même. La puissance que Dieu a placée dans les femmes doit être libérée. On revient à ce verset de Genèse 3,15, quand la femme doit écraser la tête du serpent. Il y a vraiment besoin à ce que les femmes soient restaurées, que cette armée de femmes se lève, afin que l'Église soit pleinement revêtue de toute la puissance de Dieu, de toute l'autorité. Bien sûr, il nous a donné l'autorité, nous avons l'autorité. Mais je crois qu'on aura une pleine autorité, une pleine puissance, quand les deux jambes de l'Église marcheront d'un même pas, quand le corps entier pourra avancer d'un bon pas, étant établi sur ses deux jambes. Et dans ce verset, c'est Dieu lui-même qui dit au diable que c'est la colère de la femme qui lui écrasera la tête. Il y a des versets. Moi, je vous encourage à les proclamer. L'ennemi tremble. Il tremble devant l'Église, c'est vrai, mais il tremble devant les femmes. On a vraiment une part particulière, une part importante dans l'armée de Dieu. Il y a une armée de femmes qui est appelée à se lever dans notre nation, et pas seulement dans notre nation, mais dans toutes les nations, dans l'Église grand E, dans l'Église des nations. Il y a un verset, il me semblait l'avoir noté, je l'ai. Dans le psaume 68 au verset 12, le Seigneur dit une parole. « Et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. » Les messagères de bonnes nouvelles. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, à vous les femmes, à vous les jeunes filles. Vous êtes appelés à devenir une grande armée. Et là encore, c'est un verset qui fait trembler l'ennemi, qui le fait trembler, qui fait trembler l'enfer tout entier. Parce que les rois fuient devant les messagères de bonnes nouvelles. C'est nous. Dites-le avec moi. Nous sommes les messagères de bonnes nouvelles. Nous sommes appelés à devenir une grande armée avec nos sœurs. Avec toutes celles qui sont encore appelées à entrer dans la bergerie. Et je pense à toutes ces femmes voilées, à toutes celles qui sont opprimées encore aujourd'hui. Appelons-les ensemble à entrer et à faire partie de cette armée puissante que l'Éternel est en train de lever. Nous sommes l'arme cachée de l'Éternel, mais il est temps que cette arme cachée soit aiguisée et qu'elle soit vue et qu'elle se lève. L'épouse que Dieu prépare pour son fils est parfaite. Elle est sans rides ni taches. Et le Père la voit parfaite, parce qu'il la voit au travers du sacrifice de Jésus. Mais pour l'instant, l'épouse de Christ est encore boiteuse. Elle claudique et elle ne peut pas courir vers son bien-aimé en boitant. Alors, quand vous priez pour moi, ne priez pas que pour moi, mais priez pour l'Église de France. Priez pour que l'Église puisse marcher sur ses deux jambes. Et une chose qui m'a réjouie cette année, c'est que Pierre-Daniel Martin, alors je ne sais pas s'il l'avait dit quand on était juste avec lui, ou s'il l'a dit en public, mais il a dit que dans 2 ans, l'Église de France arrêterait de boiter. Alors moi, je ne veux pas attendre 2 ans pour ne plus boiter. Anne, quand elle a prié pour moi, elle a dit « On veut que tu sois le signe de ce que Dieu fait dans l'Église de France. » Donc moi, je me mets d'accord avec cette parole. Je veux pas attendre encore 2 ans. Je veux être le signe de la guérison de l'Église de France. Je me mets d'accord avec cette parole. Mais il est temps que les chaînes soient brisées. Il est temps que les femmes se lèvent. Il est temps aussi que, quelque part, les hommes soient restaurés dans leur identité. Parce que pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas se lever? Parce que les hommes ne sont pas établis dans leur vraie identité. Parce qu'ils ont peur que si les femmes se lèvent, quelque part, eh bien, on va leur prendre quelque chose. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a une complémentarité. Moi, je n'ai pas ce que les hommes ont. Nous, on n'a pas les capacités des hommes. Et les hommes n'ont pas ce que nous, on a. Et quelque part, je mets ça aussi en parallèle avec ce que Dieu est en train d'initier, avec ce que Dieu est en train de lever au niveau du ministère apostolique et du ministère prophétique. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Une femme peut être apôtre, un homme peut être prophète. On le sait, on le voit. Mais Dieu est en train de lever l'apostolique qui établit et le prophétique qui donne la vie, qui est ce souffle de vie. Donc moi, c'est peut-être faux, j'en sais rien, mais moi je mets ça en parallèle, vraiment avec cette restauration aussi de la femme au sein de l'Église. Il y a aussi cette image qui est très forte pour moi par rapport à la France et à l'Allemagne. C'est que la France, elle est féminine dans son identité. Mais l'Allemagne, elle est masculine dans son identité. Et on est appelé à travailler vraiment ensemble. Ensemble. Pour moi, c'est quelque chose d'énorme que je ne comprends pas, je n'en mesure pas vraiment toute l'ampleur, mais on est appelé, France et Allemagne, à travailler ensemble. Que l'apostolique et le prophétique se lèvent ensemble, que les deux jambes marchent ensemble, qu'elles soient restaurées, qu'elles se lèvent et qu'elles soient restaurées, et qu'ensemble on puisse aller. Vous savez quoi? Nous sommes appelés à engendrer, à donner la vie. Mais une femme ne peut pas donner la vie si elle n'a pas un mari. Et un homme ne peut pas donner la vie s'il n'a pas une femme. C'est les deux ensemble. C'est les deux ensemble. C'est dans l'unité homme-femme que nous pouvons enfanter. Et c'est vrai que souvent, on a eu ce verset au niveau du groupe d'intercession même, dans Ésaïe 26, 18, où il est dit « Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, les habitants ne sont pas nés. » Point d'interrogation. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas travaillé hommes, femmes, ensemble. C'est dans l'unité que nous allons pouvoir enfanter pour le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à donner la vie, à donner la vie à des nations entières, à donner la vie dans nos familles, à ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Nous sommes appelés à donner la vie, à donner le souffle de vie, ce souffle puissant qui amène à la vie. Il va passer quand nous marcherons ensemble, ensemble. Alors c'est vrai que nous ici, on a cette grâce, on a ce cadeau. Mais quand on regarde l'Église autour de nous, il n'y a pas besoin d'aller loin. Quand on regarde l'Église autour de nous, elle est bancale, elle est boiteuse. Les hommes font tout et les femmes, elles sont justes. Alors je mets ça entre guillemets, bonnes à enseigner les enfants ou bonnes pour la prière, l'intercession. Mais les hommes n'ont pas compris la puissance qu'il y a là derrière. Les enfants, c'est le trésor que Dieu nous confie. Donc quelque part, comme dit, entre guillemets, moi je me réjouis. Parce que quand on enseigne les enfants, et quand on les enseigne selon la justice, selon la parole de Dieu, eh bien ils vont pouvoir grandir et devenir des hommes faits. Des hommes faits à l'image de Dieu. Mais il y a besoin à ce que les enfants aussi puissent voir cette complémentarité homme-femme, à ce qu'il y ait ce double visage, cette double nature de Dieu qui soit exprimée et qui soit déversée en eux. Vraiment, mon cri, c'est que Dieu nous vienne en aide. Que les liens soient brisés, que les chaînes tombent. C'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, on avait eu à Belfort ces séminaires de femmes, et je suis reconnaissante à Michel Rhin, à Christiane Gout, à Evelyne Fruhoff, à Manuela, qui étaient les initiateurs, qui ont porté ça, qui l'ont porté d'abord dans leur trip et qui ont porté ça, et on a eu ces séminaires. Et je pense que beaucoup au milieu de nous ont été guéris parce qu'on a pu assister à ce qui s'est passé. Et merci à Luc et à Samuel Rhin qui étaient là vraiment pour libérer les femmes. C'était quelque chose d'énorme, de puissant pour celles qui l'ont vécu. On a vraiment vécu des temps forts, des temps indescriptibles presque. Mais on a été libérés. Le voile a été déchiré. Le voile d'inimitié qu'il y avait entre les hommes et les femmes a été déchiré à ce moment-là. Mais je crois qu'il faut aller un pas plus loin. Et notre part maintenant, c'est simplement de prier pour que l'Église de France puisse découvrir le vrai visage de Dieu, pour que le vrai visage de Dieu soit manifesté, qu'il soit manifesté au peuple, qu'il soit manifesté dans la nation, et que l'Église de France puisse se lever avec toute la puissance qui va découler de là, avec toute l'autorité qui va découler de là. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Moi, je soupire après, je crie après. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'Église émergente, on a beaucoup parlé de ces choses-là. Mais elle est où, l'Église? Moi, je la vois pas encore, cette Église émergente en France. Je la vois pas encore. Il y a des petits soubresauts par-ci, des petites choses par-là, mais on a besoin de voir. Et pour voir l'Église, elle a besoin de marcher sur ses deux jambes, d'être bien positionnée. Et moi, je vais vous dire un truc, c'est que j'ai mal même dans ma jambe droite. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à force de ne m'appuyer que sur ma jambe droite, elle commence à souffrir aussi. Donc il y a vraiment un déséquilibre. Et les hommes souffrent. Quelque part, il y a une souffrance même, mais qui ne s'exprime pas. Ils comprennent pas ce qui se passe. Mais il y a cette souffrance qui est là aussi chez les hommes, parce qu'à force de s'appuyer sur une seule jambe, au bout d'un moment, elle n'a plus de force. Elle est usée. Donc il y a besoin vraiment à ce que tout soit pleinement restauré, à ce que l'Église se lève et qu'elle marche sur ses deux jambes. Et notre part, c'est de commencer à intercéder, de ne pas lâcher le morceau jusqu'à ce que... Je ne sais pas ce que Dieu veut faire, mais ce que je sais, c'est qu'il prépare une épouse. Une épouse, et vous savez ce qu'il est dit dans la parole de Dieu de l'épouse de Christ? Qu'elle est terrible comme une arme, une armée sous la bannière. Comment puis-je être terrible comme une armée sous la bannière si je continue de boiter? Si je continue de claudiquer? Si je ne peux pas courir quand l'ennemi fuit et l'atteindre parce que je ne veux pas le laisser s'échapper? Je veux l'exterminer. Comment puis-je si je ne peux pas courir et me tenir sur mes deux jambes? J'ai besoin de pouvoir marcher, de pouvoir courir, de pouvoir courir vers mon bien-aimé, de pouvoir danser avec lui, de pouvoir sauter, de pouvoir écraser l'ennemi, de pouvoir marcher sur les serpents et les scorpions, de pouvoir marcher sur les ronces. Et en ce moment, je ne parle pas en mon nom, je parle au nom de l'Église de France. En ce moment, même les ronces et les épines me font peur parce que je suis déséquilibrée et que je ne peux plus marcher, que je ne peux pas avancer. Et il est dit aussi que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. Mais cette gloire ne se verra et sera manifeste que quand on verra la réelle identité de Dieu dans l'Église. Alors sa gloire va descendre, alors sa puissance va nous couvrir, alors l'Église de France sera vue dans la nation, alors elle pourra se lever et au nom de l'Éternel marcher, avancer et aller là où lui, il veut. Amen.
Merci Huguette.